Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. En Russie, journée de rassemblement contre le président Poutine qui fête ses 65 ans aujourd'hui. Manifestation discrète car interdite et à l'appel de l'opposant numéro 1 du Kremlin, Alexei Navalny. Jean-Didier Revoin sera en direct de Moscou au début de ce journal. En Espagne, la rue, théâtre de l'opposition entre Madrid et Barcelone. Également ce week-end, plusieurs manifestations aux motifs contradictoires sont en cours à Madrid. Éclairage de Madrid, Marie-Hélène Ballestero dans un instant. Au Brésil, l'ex-militant d'extrême-gauche Cesare Battisti, condamné pour meurtre en Italie, va être libéré. Il avait été placé en détention provisoire il y a deux jours alors qu'il tentait de fuir en Bolivie. Battisti, qui reste sous la menace d'une extradition. Précision à suivre d'Ilan Malka. En France, l'association contre la corruption Anticor salue le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy. Nous entendrons son président. Et puis à 12h40, la bulle économique de Marie Viennot. Le concept de travail décent a bien du mal à se dessiner. En Russie, 80 villes sont concernées aujourd'hui par des rassemblements anti-Poutine, manifestation à l'appel d'Alexei Navalny, l'opposant numéro 1 au Kremlin qui a été condamné à 20 jours de détention lundi dernier. Ce samedi n'a pas été choisi par hasard. Le président Poutine célèbre en effet ses 65 ans. Bonjour Jean-Didier Revoin.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Moscou. Les opposants au président Poutine ont commencé à manifester. Il est difficile évidemment de faire un point précis car ces rassemblements sont interdits par le pouvoir et donc assez discrets. Mais celui de Saint-Pétersbourg sera particulièrement regardé cet après-midi.
Bien oui, effectivement, il faut rappeler que Saint-Pétersbourg est la ville natale du président russe. C'est là que Vladimir Poutine a entamé sa carrière politique à la mairie. Et par conséquent, une forte mobilisation de l'opposition dans le fief du président russe serait un signal fort adressé aux autorités. Nombre de ces manifestations sont interdites, vous l'avez dit. Dès lors, les partisans de la figure de proue de l'opposition russe vont tenter de contourner cette interdiction sur les réseaux sociaux. Personne ne parle de manifester, mais plutôt d'une invitation à descendre se promener dans les rues des différentes villes concernées, des promenades, lors desquelles il sera bien évidemment question d'Alexei Navalny et de l'élection présidentielle de mars prochain. Car en effet, Alexei Navalny est sous le coup d'une condamnation pour détournement de fonds et ne peut pas se présenter à cette élection présidentielle conformément aux règles qui sont fixées par le droit russe. Mais il en faudrait plus pour dissuader le chantre de la lutte anticorruption. Ce dernier compte justement sur une importante mobilisation populaire en sa faveur pour contraindre les autorités à le laisser se présenter à l'élection. On se souvient qu'après la victoire de Vladimir Poutine en 2012, le pouvoir russe avait fort peu goûté les manifestations dénonçant les fraudes et irrégularités constatées lors de l'élection. Alors pour l'instant, il est difficile de se faire une idée de l'ampleur de ces promenades. Les photos postées sur Twitter par les partisans d'Alexei Navalny montrent que quelques personnes étaient mobilisées à Barnaoul dans l'Altaï, mais qu'elles étaient plusieurs centaines à Novosibirsk en Sibérie.
Merci Jean-Didier Revoin pour vos précisions en direct de Moscou. Au Moyen-Orient, la Russie annonce avoir tué en Syrie 120 combattants de l'État islamique et plus de 60 mercenaires étrangers ces dernières 24 heures. Et puis la Turquie s'est lancée dans une importante offensive depuis ce matin dans la région d'Idlib, région contrôlée par d'anciens djihadistes d'Al-Qaïda. L'armée syrienne libre mène l'offensive soutenue par Ankara. Quasiment une semaine après le référendum d'autodétermination en Catalogne, scrutin qui a plongé l'Espagne dans sa plus grave crise politique depuis le retour à la démocratie, de nouvelles manifestations sont organisées aujourd'hui partout dans le pays. Les partisans d'un dialogue entre Madrid et Barcelone sont appelés à se rassembler devant les mairies, initiative anonyme lancée sur Internet et relayée par les réseaux sociaux. Mais la rue est aussi le théâtre de rassemblement qu'on pourrait qualifier de patriote, Marie-Hélène Ballestero.
L'horaire choisi est le même, mais les leitmotifs des manifestations sont totalement différents. D'un côté, il s'agit de défendre l'unité de l'Espagne. Une fois de plus, le collectif conservateur de la Fondation pour la Défense de la Nation Espagnole, DENAES, a appelé les Espagnols à se rassembler. Mais contrairement à la semaine dernière, une seule manifestation a été convoquée dans la capitale, maintenant tous à Madrid. C'est la consigne de la Fondation DENAES qui demande à la population de venir en masse pour défendre la nation, la constitution et l'état de droit. Le lieu choisi n'est pas anodin, la place de Colomb, en plein cœur de la capitale, est surtout à quelques mètres seulement du siège du Parti populaire. Nul doute que les manifestants veulent mettre la pression sur le gouvernement Rajoy. Hier, l'association catholique ultra-conservatrice Afteoir s'est rendue devant le palais de la Moncloa à Madrid pour déposer près de 70 000 signatures afin d'exiger au chef du gouvernement d'appliquer immédiatement l'article 155 de la Constitution espagnole afin de suspendre l'autonomie de la Catalogne. Devant la mairie de Madrid et dans d'autres villes espagnoles, c'est un autre son de cloche. Il s'agit d'un appel au dialogue, une initiative citoyenne lancée de façon spontanée ces derniers jours à travers les réseaux sociaux. Face à l'attitude des institutions politiques qui ne font que favoriser la division, la haine et l'affrontement, soutiennent les organisateurs, ce rassemblement appelle au dialogue. Une couleur a été choisie, le blanc, symbole de l'unité, et pour mettre fin aussi à la guerre des drapeaux qui s'est intensifiée ces derniers jours dans toute l'Espagne.
Correspondance à Madrid signée Marie-Hélène Ballestero. J'ajoute qu'une autre marche dite patriotique sera organisée demain midi à Barcelone. L'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature, y participera. Lui qui a qualifié cette semaine l'indépendantisme catalan de maladie qui pourrait transformer la région en une nouvelle Bosnie. Au Brésil, l'ex-militant d'extrême gauche italien Cesare Battisti, condamné à la réclusion à perpétuité dans son pays, va être libéré. C'est ce qu'annoncent ses avocats depuis hier soir. Bonjour Ilan Malka.
Bonjour.
Battisti avait été arrêté il y a deux jours et placé en détention à Corumba, près de la frontière bolivienne.
Oui, alors les avocats de Cesare Battisti sont formels. Un juge local a pris la décision de le libérer, décision qui devrait être appliquée rapidement. Mais cela n'empêche pas la procédure judiciaire de se poursuivre. Rappelons les faits précis. Mercredi dernier, Battisti est arrêté à la frontière entre le Brésil et la Bolivie. Il transporte 6000 dollars et 1300 euros, somme supérieure au montant autorisé. Il est donc interpellé et mis en détention. Il est soupçonné surtout d'avoir cherché à fuir le Brésil pour se réfugier en Bolivie, ceci afin d'éviter une extradition en Italie.
Car l'Italie, justement, réclame l'extradition de Battisti depuis plus de 20 ans.
Oui, alors en 1993, Battisti est condamné par la justice italienne à la réclusion à perpétuité. Il est reconnu coupable de plusieurs meurtres qui remontent à son engagement politique des années 70. Il se réfugie en France, il bénéficie de l'engagement de François Mitterrand qui a décidé de n'extrader aucun militant d'extrême gauche ayant renoncé à la lutte armée, ce qui est le cas de Battisti. En 2004, le président Chirac, à l'inverse, se dit favorable à l'extradition. Battisti s'enfuit au Brésil et là, l'histoire se répète. Dans un premier temps, le président Lula, puis sa dauphine Dilma Rousseff, refuse de le livrer à l'Italie. Puis le président actuel, Michel Temer, se dit, lui, favorable à l'extradition. Battisti doit donc fuir à nouveau. C'est pour cela qu'il est soupçonné d'avoir tenté de gagner la Bolivie avec tant d'argent en poche. À l'heure actuelle, la demande d'extradition est toujours étudiée par le Brésil. La Cour suprême pourrait décider de la bloquer au nom des engagements pris précédemment par le président Lula.
Merci Ilan Malka pour vos précisions. Le parquet national financier demande le renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel. C'est l'affaire dite des écoutes téléphoniques, affaire dans laquelle l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert sont aussi poursuivis. L'ancien chef d'État est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir des informations sur l'avancement de l'affaire Bettencourt dans laquelle il avait été mis en cause. Cette décision inédite du PNF est saluée par le président de l'association anticorruption Anticor, Jean-Christophe Picard.
C'est un événement quand même cette affaire, parce que ce serait, si jamais le juge d'instruction confirme, hein, c'est-à-dire rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ce serait la première fois qu'un président en exercice serait jugé pour des faits de corruption. Il faut quand même rappeler que c'est un président qui aurait essayé d'acheter un juge. Enfin, c'est ça le problème. Hein. Et d'ailleurs, je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas eu de poursuite ou qu'il n'y aurait pas de poursuite pour usurpation d'identité, puisque vous vous rappelez qu'il y a un vrai Paul Bismuth qui a vu sa réputation quand même salie, et je crois qu'on aurait mérité cette qualification pénale.
Des propos recueillis par Lucie Barbarin. Dans l'attentat raté aux bonbonnes de gaz à Paris, les trois hommes déférés hier soir sont mis en examen et placés en détention provisoire. Parmi ces suspects, deux sont fichés pour radicalisation, mais le choix de la cible, un immeuble du 16e arrondissement de la capitale, reste inexpliqué. Alors que le cyclone Nate se renforce et a déjà fait 25 victimes en Amérique centrale, l'île française de Saint-Martin poursuit sa lente reconstruction. Un mois après le passage de l'ouragan Irma, les dégâts restent très importants. La collectivité dit avoir besoin de 3,5 milliards d'euros pour ses travaux. Information de nos confrères de France Inter qui ont recueilli l'évaluation de Daniel Gibbs. Le président de la collectivité était à Paris en début de semaine, Daniel Gibbs, qui a fait l'aller-retour pour présenter la note au président Macron, Thibault Lefèvre.
Une évaluation réalisée en une dizaine de jours et qui prend en compte tous les dommages qui ont touché Saint-Martin et notamment l'ensemble des dégâts sur des biens qui ne bénéficient pas de la garantie catastrophe naturelle, des véhicules assurés au tiers, des bateaux ou encore des marchandises transportées. Une somme presque trois fois supérieure aux premières estimations de la Caisse centrale de réassurance, propriété de l'État et spécialisée dans les catastrophes naturelles. Et c'est là que se trouve le principal enjeu de ce que Daniel Gibbs appelle une négociation. Le chèque doit-il prendre en compte l'ensemble des destructions ou simplement les biens assurés? À Saint-Martin, 50 à 60% des biens ne sont pas couverts par une police d'assurance, c'est seulement 2% en métropole. Daniel Gibbs demande à Emmanuel Macron de respecter ses engagements pris quelques jours après le passage d'Irma, à savoir sortir du droit commun et bousculer les procédures. Vœux pieux ou réelle directive adaptée à la catastrophe que vit Saint-Martin? Réponse en milieu de semaine prochaine à l'issue d'une réunion interministérielle.
Explication signée Thibault Lefèvre.